poésie et ainsi de suite par Manou Farine.
Il nous faudrait, en fait, inventer un dialecte du territoire, former un nouveau dictionnaire de cette chose mouvante, changeante et tenace qu'est la nature, écrit-elle. Aujourd'hui, border la bête et écouter la forêt. Lune Villemain, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous ici au Grand Palais éphémère qui accueille le Festival du Livre de Paris. Festival qui met cette année le Québec à l'honneur. Border la bête, que vous signez aux éditions de la Contre-Allée, a été écrit pour l'essentiel, je crois, en résidence dans les Pyrénées. Mais le territoire un peu imaginaire, ou en tout cas par petits bouts de fiction qu'il décrit, emprunte beaucoup à l'Ontario et à la Colombie-Britannique où vous avez vécu un temps. Je pense en particulier à la Babine, cette rivière que le roman longe, hein, littéralement, sans discontinuer. Une rivière à voix multiples qui change avec les saisons, qui chante, qui dévore, qui écoute, qui se laisse parfois écouter. Qu'est-ce que l'écriture de votre roman lui doit à cette rivière ?
Alors la rivière fictive, donc Babine, c'est une rivière alors, qui existe vraiment et à la fois qui n'existe pas. En fait, j'emprunte le nom à une rivière qui s'appelle Babine, mais qui est en Colombie-Britannique. Et je la place et je redessine son lit sur un territoire qui est un collage de morceaux de Colombie-Britannique et d'Ontario, mais aussi des Pyrénées. Je pense que dans la recherche de comment décrire les sons d'une rivière, il y a beaucoup des gaves pyrénéens donc, que j'ai côtoyées quand j'étais en résidence dans les Pyrénées. Donc tout ça s'amalgame et forme ce personnage non humain fictif qu'est Babine.
Mais qui est très très incarné. Qu'est-ce qu'il lui fallait à cette rivière,
à cette... En fait, il lui fallait un corps. Il lui fallait un corps, il lui fallait des voix. Dans le roman, il est question de recherche de sons, mais aussi de rencontres corporelles et de ce qui nous traverse, nous les humains, et ce qui traverse le vivant non humain. Donc pour écrire Babine, il fallait que je lui trouve un corps, une personnalité, peut-être même plusieurs personnalités.
Plusieurs voix, c'est ce qu'on va entendre. Peut-être que vous voulez bien nous la lire un peu, cette Babine.
Je tente de décomposer son chant, ses chants, voix complexe, maîtrisée. D'abord, est-ce que le mot rivière se rattache seulement à l'eau et au mouvement ? Ou bien la rivière est-elle aussi rocher, branche, feuille, aiguille, tronc d'arbres morts, mousse, lichen, simple plongeur, loutre, terre, invertébré, ombre, comme le pense Jeff. La glace et la neige, un étau. Babine cascade, blanche, sur 4 étages de rochers trempés et doux, passe sa langue râpeuse sur leur dos bossu. Cette langue se fend en deux, devient reptile. D'un côté, elle rigole joliment avec ses reflets auburn et vert. D'un autre, elle s'impatiente et marche sur ses propres pieds, s'immisce dans une ouverture comme un filet d'air, se ride de marques de vie avant de rejoindre l'effervescence des rapides plus bas. Ce que j'entends, 3 basses continues. L'une vient du fond de la poitrine. Une autre est plus claire et une autre encore rappelle une tempête de vent dans la prairie. Je me rapproche, tends l'oreille. Des accents plus prononcés, des arythmies se distinguent. Il n'y a pas d'hésitation. Tout est confiant. Par endroits, Babine est calme, presque immobile, telle une flaque d'eau. On la croirait autre. La voilà qui chuchote, prête à écouter peut-être. Soudain, docile, elle tolère la marche tendre et précise des gérisses. Leurs pattes fines glissent sur l'épiderme encore froid de Babine. Les gérisses entendent sûrement d'autres tonalités. J'observe leurs glissements et les ondes silencieuses à la surface qui apportent une cadence nouvelle, modulent le rythme de Babine.
Merci. Dans Border la bête, il y a la rivière, donc, mais aussi le lac, la glace, la neige, la pluie, la boue, la tourbière qui est pleine d'eau, l'eau dans laquelle la narratrice de votre roman patauge dans sa première vie de brasseuse de houblon. l'océan qu'elle veut rejoindre au début de l'histoire, et puis votre précédent et premier roman se déroulait sur une île. Est-ce qu'il y a pour vous, Lune Villemain, quelque chose qui se joue entre l'eau et l'écriture ?
Ah oui, il y a quelque chose qui se joue entre l'eau et l'écriture, il y a quelque chose qui se joue entre l'eau et ce qui, pour l'instant en tout cas, anime mes romans. Le premier, Quelque chose de la poussière, et celui-ci, Border la bête, qui est de l'ordre de la trajectoire. De la source, la trajectoire du mouvement, de ce qu'une rivière peut rencontrer d'obstacles, des arbres morts qui tombent, des barrages de castors, des guets formés par les humains, tous ces changements. Et pour moi, ça me rappelle peut-être un peu naïvement une trajectoire de vie. Et donc, dans Border la bête, je pense que si la narratrice qui raconte l'histoire est tellement fascinée par Babine, c'est peut-être parce qu'elle se reconnaît en elle et que leur trajectoire, à un moment, trouve des échos l'une en l'autre.
Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on entre dans le roman par une eau prise, d'une certaine façon ? En tout cas, qu'on rentre par la glace, qu'on rentre par l'hiver.
Oui, c'est vrai que le roman commence en hiver et c'est un territoire... Le territoire que j'écris, c'est un territoire fait d'eau. C'est-à-dire que il y a une couche de glace qui recouvre une couche de neige et puis la couche de neige fraîche qui vient recouvrir cette glace. Et dessous, il y a au printemps de la boue et ces lacs, le lac Petit, le lac Grand, les rivières, l'eau est omniprésente sur ce territoire. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre du son aussi autour de l'eau, puisque c'est un livre sur l'écoute et sur le monde sonore. Donc l'eau, ce qu'elle transporte, ce qu'elle fait, créer d'écho ou d'illusions sonores me fascine aussi, et ça a nourri beaucoup l'écriture. Et l'hiver a quelque chose un peu de ouaté, mais de faussement calme, c'est-à-dire que c'est un hiver que j'ai voulu écrire comme un hiver, comme une saison qui gronde, qui pulse, et pas seulement quelque chose de très calme. On pense souvent au pas feutré dans la neige, mais je crois qu'il y a d'autres choses, quelque chose qui pulse dessous et qui attend qu'on prête assez l'oreille pour venir gronder, chanter, crier.
Et qui peut tuer également, parce qu'on entre dans le roman donc par l'hiver, on en sort d'ailleurs par un poème. On y entre avec la narratrice, qui est donc cette jeune femme perdue, venue des prairies, qui arrive là un peu par hasard, tout à son chagrin de la perte d'un proche. La rencontre avec deux personnages, donc Jeff et Arden, à la faveur de la tentative de sauvetage d'une orignale, va lui permettre de tout recommencer, ou en tout cas de tout commencer. Lui, Jeff, n'a qu'un œil. Elle, Arden, est très grande, a des mains comme des pattes d'araignée. Tous les deux sont des personnages assez cabossés. Tous les deux vivent dans ce territoire sauvage. Tous les deux sont dévoués à prendre soin, à réparer, à ranimer des animaux sauvages dans un refuge. Cette scène-là, inaugurale, celle de l'orignal, de cette orignal femelle, qu'est-ce qu'elle annonce d'entrée ? Qu'est-ce qu'elle pose ?
Il y a quelque chose de l'ordre du sentiment d'impuissance. En effet, la narratrice, elle va rencontrer Arden et Jeff, donc, qui sont les deux autres personnages humains du roman, à ce moment-là, donc cette tentative de sauvetage de l'orignal qui se passe vraiment pas comme prévu. Et donc c'est une confrontation déjà à la mort, et aussi je voulais me poser la question, et donc les personnages humains vont se poser cette question de l'intervention humaine en milieu, alors nous on dit sauvage, moi j'aime plutôt dire voilà, sur le territoire, dans cet habitat partagé avec le non-humain, ces vies là de personnes qui dédient leur quotidien aux soins des animaux, en l'occurrence là, pour Border la bête, et qui essayent tout au long du roman, de trouver une humilité et une posture vraiment de l'ordre du soin apporté, et de vraiment porter leur attention sur les non-humains. Et en même temps, il y a cette question de j'interviens, c'est-à-dire que j'essaye de sauver un animal. Parfois même, on va prendre un animal et on va l'amener. Ils ont une grange, la narratrice appelle cet endroit la grange, où ils vont recueillir les animaux qui ne peuvent pas passer l'hiver dehors. Et donc, ils vont les garder. C'est une forme de captivité, même si c'est pour les relâcher plus tard au printemps. Mais donc, je voulais me poser aussi la question de l'ordre de l'intervention et de ces contradictions-là. Quand est-ce qu'on intervient? Quand est-ce qu'on laisse faire, finalement? Et du coup, la place de la mort dans le monde sauvage.
À l'apprentissage du soin, parce que donc, ce personnage, cette narratrice qui n'a pas de nom, qui a, en tout cas, on sait juste qu'elle a un nom en deux syllabes, si je me souviens bien, à l'apprentissage du soin s'ajoute l'apprentissage de la nature aussi, d'une certaine façon, en tout cas du territoire. La narratrice suit Arden et Jeff au bord de la rivière, bien sûr, et surtout dans la forêt. Marcher en forêt, c'est un peu se promener dans une caisse de résonance, dit Jeff. Moi, j'ai l'impression de monter sur une scène où se joue une pièce de théâtre, et plus j'y réfléchis, plus ma présence désamorce l'acte en cours. Je cherche toujours un rôle à ma présence. Alors, cette question du rôle et de la place travaille vraiment tout le roman, mais sur ce lieu-là, celui de la forêt, qu'est-ce que c'est, au fond, pour vous, Lune Villemain, que de marcher dans la forêt?
Ça peut être plein de choses, et ça dépend vraiment de... Alors du coup, pour moi, marcheuse, ça va être très différent selon la journée que je vis, ou que j'ai vécue, si c'est la fin de la journée. En fait, c'est tout ce qui va se jouer dans Border la Bête, c'est-à-dire que les personnages humains vont tenter d'écouter les sons de la nature. Donc, pour eux, ça vient de l'oreille. Après, ils vont essayer de se bander les yeux et de ne pas essayer de sentir avec leur nez les odeurs, les effluves qui les entourent. Et en fait, ils se rendent compte que le corps joue un rôle hyper important dans l'écoute. Donc, marcher en forêt, pour moi, c'est tout ce qui passe par mon corps, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je ressens, et qui, en fait, vient rencontrer... je sais pas, notre passé, ce qu'on est en train de vivre, tout ça, en fait, j'ai l'impression que ça s'amalgame à l'intérieur. Et c'est ce que j'essayais de montrer dans ce que vit la narratrice quand elle est en forêt, c'est cette espèce de rencontre du vivant qui nous entoure et avec lequel on partage un habitat, et de nos émotions et de notre passé, tout ça qui se mêle, en fait, qui se mélange.
À quoi est-ce que vous êtes attentive en forêt, pour reprendre une question que Jeff pose à la narratrice?
Alors déjà, c'est des tentatives d'attention, parce que c'est très difficile, et ça, je crois que je voulais le montrer aussi avec ces deux personnages humains, c'est très difficile de se détacher de soi. Alors on aime bien, en tout cas c'est peut-être un réflexe que de penser à son corps et à comment il est dans l'espace et ce que je ressens, et puis d'un coup il fait froid et puis je m'enfonce dans la tourbe. Et donc c'est déjà le premier pas, c'est essayer de se détacher de soi, et c'est plutôt difficile. Moi j'essaye d'être attentive, ça dépend toujours, les forêts sont tellement différentes, et même lorsqu'on pense connaître par cœur une forêt en particulier, finalement, on la connaît jamais par cœur, parce qu'elle n'a pas les mêmes messages au fur et à mesure des jours, des saisons, et on entend des langues différentes. Donc, je pourrais pas être attentive à tout, mais en tout cas, le roman part d'une envie d'écouter, et c'est très difficile de se poser à un endroit dans une forêt, dans une tourbière, et de passer des heures à ne faire qu'écouter. Mais voilà, essayer de porter son attention, c'est déjà la première envie.
Et écouter, est-ce que c'est déjà un peu écrire?
Oui. Je pense que pour Border la Bête, l'écriture, quand on me demande en combien de temps j'ai écrit le livre, je demande toujours l'écriture, c'est-à-dire quand j'écris dans mes carnets ou sur mon ordinateur, ou vraiment l'écriture du roman. Et je pense qu'on peut écrire dans sa tête, on peut écrire en marchant et on peut écrire en écoutant. En tout cas, ce récit-là, c'est vraiment construit pendant des heures de marche en silence et des heures d'écoute. Donc ça nourrit forcément le texte. Donc oui, quelque part, marcher, écouter, ça peut devenir écrire.
Parce que la question de la description aussi tient l'ensemble du livre, et de l'impossibilité aussi de décrire. C'est-à-dire que le roman aussi, sans arrêt, entre les mots qu'on cherche et les mots qu'on ne trouve pas. Et donc, entre la recherche de cette langue possible pour décrire la nature et en même temps son impossibilité, et la question de la place la place dans le milieu qui nous entoure. Est-ce que écrire pour vous, l'inhumain, en tout cas dans Border la Bête, est-ce que c'est une façon, une autre façon de trouver sa place dans un paysage?
Peut-être que ça aide à comprendre quelle peut être ma place dans le territoire, mais je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire, c'est sur cette recherche des personnages du mot juste pour décrire les sons dans la nature, qu'on pourrait très bien en fait apparenter à la recherche de l'écrivain lorsqu'il écrit.
Oui, tu me dis, c'est aussi un livre sur l'écriture.
C'est pas forcément quelque chose que j'ai voulu au début ou que j'ai cherché, mais il y a de ça en fait, cette recherche de Jeff et la narratrice du mot juste pour décrire les langues du territoire. Est-ce que c'est pas moi en train d'essayer de chercher la meilleure façon d'écrire ce que je voudrais écrire justement? Et au final, je trouve que ce qui est peut-être beau, c'est justement de ne pas trouver. Parce que ça veut dire qu'on va continuer à jouer, et qu'on va continuer à chercher, et qu'on va continuer à porter attention, et qu'on va continuer à écrire. Et c'est cette recherche-là que je trouve intéressante dans l'écoute du vivant comme dans l'écriture.
Alors, le personnage, la narratrice et Jeff cherchent à transcrire, justement, à décrire ces sons qu'ils entendent dans la forêt, donc une sorte d'impossible herbier sonore. Écouter, transcrire sur un carnet, et voilà ce que ça donne. Répétition, ritournelle, rythme d'un piaillement, trahison d'un contretemps, crépitation, note d'au-dessus, d'autour et du lointain. La neige parle à voix basse, dans sa tête. Lorsqu'elle a fini de tomber, son du flocon qui fond sur l'écorce ou qui se joint aux autres sur le chemin glacé. Rire, nos propres respirations qui s'accordent au temps. Tiraillement, soupir et disparition, vibrato. Une rumeur qui se révèle en crescendo, froissement chaud, hésitation, quelque chose vibre dans le blanc et tranche la noirceur des conifères, des basses agitées jaillissent d'en dessous, rire à nouveau, qui sont donc des petites notes, des tentatives de transcription. Au fond, il s'agit moins d'écrire ce qu'on entend que ce que ça nous fait.
Oui, c'est ça. Il y a quelque chose, vraiment, comme je disais tout à l'heure, et on a commencé à parler de Babine et de la rivière, et tout de suite je parlais du corps. Dans l'écoute, le corps est présent. On écoute avec nos oreilles, certes, et aujourd'hui on a des moyens de pouvoir écouter la nature quand nous les humains, nous n'y trouvons pas, c'est-à-dire en posant un micro, en partant, en revenant plus tard et en écoutant ce qui se joue quand on n'est pas là. Mais pour moi, et c'est fabuleux, tous les travaux de bioacousticiens, ce que ça peut nous apporter d'émerveillement, de compréhension, mais il manque quelque chose là-dedans, c'est le corps. Je vois vraiment notre corps comme une espèce de caisse de résonance dans laquelle les sons, les langues viennent se répercuter, entrer, etc. C'est vraiment toute cette question du corps, du ressenti et de ce que du coup on va rebalancer autour de nous qui vibre.
Mais ça veut dire que quand vous ne trouvez pas les mots, ni la narratrice, ni vous peut-être, ni Jeff, le personnage qui ne trouve pas les mots pour décrire ces sons qu'ils entendent, c'est pas tant qu'il y ait une lacune de la langue, mais peut-être davantage une lacune de nos corps à nous qui ne sont pas assez exercés à entendre.
Oui, alors peut-être qu'il y a un peu de ça. Peut-être que c'est aussi une invitation à vraiment remuscler nos corps, nos oreilles et notre esprit à se mettre à l'écoute de ce qui nous semble très lointain, très étranger, un insecte, l'écorce, deux brins d'herbe qui se frôlent. Mais lacune, je sais pas. Moi, la narratrice et Jeff, quand je les écris en train d'écouter la nature et de former leur herbier sonore, je les vois un peu aussi comme deux enfants qui jouent. Deux gamins qui se rencontrent, qui se connaissent pas, et puis en deux minutes, ça y est, ils ont inventé un univers, ils ont inventé un jeu, et ça peut durer pendant des heures. Et je les vois aussi un petit peu comme ça. Donc, dans ce qu'on ne trouve pas et ce qu'on n'atteint pas, ce qui est impalpable, ce qui est indescriptible, il y a aussi une forme de beauté et de rendez-vous. C'est-à-dire, on va revenir demain pour essayer à nouveau.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite par Manou Farine.
Et toujours depuis le Festival du Livre de Paris, aujourd'hui à la technique, Olivia Branger et Christophe Papon, à la réalisation Hélène Trigueros, avec la collaboration de Virginie Leduo, et avec nous, toujours au Grand Palais Éphémère, Lune Villemain qui signe Border la Bête aux éditions de la Contre-Allée.
As the sun comes up, as the moon goes down, these heavy notions creep around, it makes me think long ago. I was brought into this life, a little lamb, a little lamb, courageous stumbling, fearless was my middle name, but somewhere there I lost my way. Everyone wants the same, expecting me to step the narrow path they've laid. They claim to walk unafraid. I'll be clumsy instead. Hold me, love me, or leave.
Quelques notes de Walk on Fred, le duo par le duo suédois First Kids Aid, que vous avez demandé à nous faire entendre, Lune Villemain. Il y a de la musique, beaucoup dans le livre, mais pas forcément celle que l'on croit, notamment un personnage de musicienne, le chant de la rivière, le chant du poêle, même dans la maison. Chez vous, dans le livre, dans Border la Bête, le vivant ne fait pas de distinction, insecte ou grand prédateur, arbre, mousse, rivière, homme, femme, même les objets, je pense notamment à ce fameux poêle dans la maison de Dardenne. C'est moins une affaire de cohabitation avec la nature qu'une question presque de porosité. On a l'impression qu'il y a comme une sorte de souffle animiste presque qui travaille tout le roman. Tout est relié, tout est vivant.
Tout cohabite, tout coexiste. En fait, c'est une question de volonté. Mais oui, c'est vrai que dans ce roman, la narratrice qui, au début du récit... tente de rejoindre l'océan pour fuir quelque chose et s'extraire, puisqu'elle a un deuil à faire. C'est vraiment un besoin d'extraction du monde, de ce qu'elle connaît, qui va la pousser à partir. Et au final, elle se retrouve dans un refuge pour la faune sauvage et dans cette forêt où, en fait, tout est lié. J'aime bien ce mot-là aussi, ouais, de porosité, c'est ça. C'est ce qui, je pense, va l'aider justement à digérer son deuil. Par le soin apporté aux autres, finalement se soigner soi et ces liens en fait pour peut-être soigner ses relations avec les autres. Et là on est dans Border la Bête, dans les relations aux non-humains, parce que c'est inévitable, la forêt est peuplée d'êtres, de communautés, et elle découvre ça comme une enfant, hein, j'ai l'impression, avec beaucoup de curiosité, et puis elle finit par se rendre compte que ça la bouscule, ça la bouleverse de rencontrer tous ces êtres-là et de se rendre compte qu'elle a beaucoup de langues et de langages à apprendre.
Y compris du personnage féminin de Dardenne, un personnage magnifique dont... faut le lire, dont je ne raconterai pas l'histoire. Mais vous avez demandé d'entendre une autre voix de femme, et cette voix, c'est celle-ci.
Tu sais, quand les vieux te racontent, là, que tu as fini par comprendre tous ces mots qui appartiennent à notre mythe, ben, tout ce qu'ils te racontent, tu le vois. C'est eux que j'écris, c'est eux mes poètes. Je porte ma grand-mère sur le dos, mes genoux ploient sous tant de sagesse. Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas.
Dis-toi, est-ce que t'es une grande poète?
Faut pas parler de ça.
C'est la voix de la poétesse Joséphine Bacon. C'est extrait de la bande-annonce du film documentaire Je m'appelle Humain, qui est un film de Kim Obamsawin, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous vouliez faire entendre par cette voix-là, ce rire-là, Lune Villemain?
Partager la voix de Joséphine Bacon, moi ça m'émeut toujours de l'entendre alors que j'ai vu le film une paire de fois et que j'ai beaucoup écouté cette bande-annonce là où on l'entend et son rire. Joséphine Bacon, c'est une poétesse inoue incroyable dont la poésie vient me chercher et vraiment m'a réconciliée avec la poésie. J'ai toujours envie de la faire lire, j'ai toujours envie qu'on aille lire Joséphine Bacon. Dans le film, à un moment, elle dit « Je ne dis pas que je suis poète, je dis que j'écris des mots dans lesquels les gens trouvent leur poésie. » Et ça, ben c'est ça. Pour moi, déjà, c'est peut-être ça la définition de la poésie qu'on tente depuis des années de définir, et je trouve que c'est très compliqué de définir la poésie. Et je pense que si on me demande de définir la poésie, ben je donne cette citation de Joséphine Bacon.
Alors, il nous reste une toute petite minute pour en tenter une autre de définition. Est-ce que la narratrice emprunte aussi à la culture autochtone un geste, un art particulier qui consiste à mordre les écorces d'arbres pour y tracer des figures ou des signes? C'est un geste peut-être que vous avez vu faire pour le glisser là-dedans. Quel sens est-ce qu'il prend dans le roman à proprement parler? Parce que la narratrice écrit de sortes de poèmes sur la peau du bouleau de l'arbre qu'elle va signer de 3 marqueurs d'incisives.
Oui, c'est inspiré de l'art ancestral du mordillage d'écorce. Je trouve que dans ce geste-là de mordre l'écorce et d'inscrire, de laisser son empreinte par les dents, il y a quelque chose, en tout cas pour la narratrice dans le livre, de l'ordre de calmer ce qui lutte à l'intérieur et de laisser sa trace, et c'est une forme d'écriture aussi.
Finalement, c'est quoi border la bête?
Border la bête, ça peut être plein de choses. Et puis, de quelle bête je parle? C'est toute la question du titre. Mais ce sera pas la même chose pour moi que pour toutes les lectrices et les lecteurs.
Border la bête, apparu aux éditions de la Contre-Allée. Merci infiniment, Lune Villemain, d'être venue nous en parler ici au Festival du Livre de Paris. Poésie et ainsi de suite, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission en partenariat avec La Croix Lebdo que vous pouvez réécouter et partager sur le site et l'appli Radio France. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, mais pas même endroit. D'ici là, bon après-midi à toutes et à tous. Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.